Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International pour vous parler évidemment de football. Et nous commencerons la semaine en évoquant le Paris Saint-Germain. Une équipe sur sa lancée avec une nouvelle victoire sans appel. Le voilà premier, le PSG du championnat grâce à ses buteurs stars. Mais déjà des nuages à l'horizon. Le PSG, c'est s'inventer des problèmes. Neymar et Mbappé se sont embrouillés et Christophe Galtier va devoir calmer son vestiaire. Chaud aussi le derby de Londres. The derby entre Blues et Spurs a été très disputé sur et autour de la pelouse pour finir sur un score nul, mais pas sans conséquences pour les entraîneurs. Manchester United, monument en péril. Deux défaites en deux journées, deux raclées et les voilà derniers de Premier League. Un club prêt à licencier son fils prodigue, Cristiano Ronaldo. CR7 qui figure encore sur la liste des joueurs prétendants au Ballon d'Or cette saison, mais pour la première fois depuis 17 ans, Lionel Messi, le septuple Ballon d'Or, n'y figure plus. Est-ce vraiment une surprise? L'Afrique compte 4 représentants, n'est-ce pas Nabil Djellit? Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Radio Foot International, vous nous parlerez de France Football et de cette liste, n'est-ce
avec
pas?
Avec une liste, avec un événement majeur, mais on en parlera tout à l'heure ensemble. Ouais. À la différence de lui, moi je ne suis pas absent ce soir.
Vous êtes toujours présent à l'appel. Alors celui qui est toujours présent, prêt à parler de son club, à le défendre souvent. Bonjour Eric Ravisson.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Ah, il y a marqué Baréa en énorme quand même sur son maillot parce qu'il n'a pas qu'un seul amour.
Le soutien, exactement. Voilà.
Salim Bongali, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Vous évoquez les 6 ballons d'or de Messi, non pas 7, parce que pour vous l'année dernière c'est Mané qui devait l'avoir et pas Messi, on l'aura compris.
C'est un
pas
peu
pour
ça.
D'autres, c'est Lewandowski.
Nos auditeurs m'auront compris. Non, mais ça aurait été en 2020, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est vrai, il y avait 2020. Vous avez raison.
L'année où il n'y en a pas eu, vous vous souvenez? Une certaine année 2020, je crois qu'on s'en souvient tous. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno, maestro, est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Et c'est Kylian Mbappé qui ne va pas se faire prier pour lui frapper ce pénalty. Premier duel de la saison pour Mbappé. Mbappé face à Omlin, c'est arrêté! Quelle détente de Jonas Omlin pour mettre Mbappé en échec!
Neymar ou Mbappé? Il y a Mbappé qui le veut, mais je crois que Neymar va le prendre.
Mbappé et Neymar, et Mbappé s'est effacé pour laisser le soin à Neymar de porter le score à 2-0. Cette fois-ci, Neymar fait toute la différence! Excellent pied, bien sûr, de la défense montpelliéraine!
Et oui, c'est pénalty important dans le déroulé de cette soirée au Parc des Princes. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, 3 matchs officiels et 3 larges victoires donc pour l'équipe, avec en prime, grâce au goal average, une première place au classement dès la première journée, peut-être jusqu'à la dernière. Ça, nous le verrons, ça ne s'est encore jamais produit.
C'est pas arrivé souvent pour Paris. Ouais.
Pour des joueurs et un staff qui veulent marquer les esprits, eh bien voilà, il y a toujours des records à établir. Une victoire en tout cas sans appel, hein, on le rappelle, 5-2. Qui illustre le bon travail du nouvel entraîneur Galtier. C'est ce que souligne notre ami ici à Radio Foot, aujourd'hui lui aussi entraîneur au Red Star, Habib Bey, au micro de Martin Guèze.
Ce qu'a mis en place Christophe Galtier, c'est positif. À chaque fois qu'un entraîneur arrive au Paris Saint-Germain, tout le monde est sceptique. Lui, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que je le dis, la mission numéro 1 d'un entraîneur, c'est de générer du plaisir avec ses joueurs, pour justement aller créer de l'émulation au niveau des talents de cette équipe et avoir un équilibre. Donc à partir de là, pour l'instant, il vient un championnat qui est très très bon. Il a gagné le trophée des champions, donc c'est aussi la confiance que génèrent ces résultats-là. Et c'est à lui de le maintenir et de maintenir ce cadre qu'il a posé avec la direction sportive de façon à maintenir tous ses joueurs à ce niveau d'exigence-là.
Du plaisir, il y en a dans les tribunes et sans doute eh bien, entre les joueurs, bon travail d'ensemble. Mais peut-être, allez, Eric, deux bémols, c'est des manitas face à des adversaires quand même qui ne sont pas très capés, on va dire. Hein. Ouais. C'était Clermont, rappelons-le, Clermont-Ferrand et Montpellier. Et puis deux buts encaissés.
Oui. Ouais, c'est plus les deux buts encaissés, puisque le festival offensif, à mon avis, on va y avoir droit assez souvent cette année, parce qu'ils ils ont l'air d'être disposés. C'est normal, on ne sait pas. C'est l'inconnu, il a raison. C'est l'inconnu. Ça, on ne sait pas. Mais non, pour les deux buts. C'est assez surprenant et pas en fait, parce que Donnarumma, je trouve que sur le deuxième, il est un petit peu en retard dans sa décision de sortir ou de pas sortir, parce qu'il sort, mais en fait, il peut encore rester sur sa ligne. Et peut-être qu'en restant sur sa ligne, c'est plus facile pour lui de faire l'arrêt déjà. Et puis après, sur l'inattention, parce qu'on a toujours des moments d'inattention et on les paye souvent cash. Alors attention, justement, comme a dit Nabil, parce qu'en Ligue des Champions, il ne faut pas 50 occasions aux adversaires pour faire la différence. Donc, il va falloir se méfier de ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt plaisant. Et on a vu un PSG plutôt bon.
Mm-hmm. Nabil ?
Non, mais sur le spectacle, sur ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain, c'est cohérent. C'est de nouveau une machine qui fait peur en Ligue 1. Finalement, c'est plus un retour à la normale que quelque chose de si exceptionnel. Ils sont en mode Bayern en Bundesliga, c'est-à-dire largement au-dessus de leurs adversaires.
Ce qui change un peu, c'est que on met le vrai score. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des occasions, mais tu ne mettais pas forcément toutes les occasions. Là, il y en a quand même beaucoup plus qui sont concrétisées.
Oui, et c'est dû en grande partie au retour en forme d'un joueur brésilien qui s'appelle Neymar.
Ouais. C'est vrai.
Qui fait du coup la différence, un petit peu comme il la faisait par certaines séquences forte de son passage au Paris Saint-Germain. Le bémol, effectivement, c'est les deux buts inscrits, un peu le manque de rigueur et de concentration là-dessus.
Les deux buts encaissés par Montpellier. Ouais,
je pense que Christophe Galtier a dû insister là-dessus, parce que le but du Paris Saint-Germain, c'est d'être clinique dans la surface adverse.
Ça, c'est sûr.
Et être clinique défensivement.
Pour l'instant, ils avaient commencé 4-0 à Tel Aviv contre Nantes et 5-0 à Clermont.
C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, les oppositions, forcément, offensivement, normalement, tu ne dois pas être en difficulté comme ça. Et là, oui, ça fait tâche un peu.
Après, mais il y a un état d'esprit peut-être qui se dégage,
oui,
Salim.
On a évoqué l'aspect positif, en tout cas dans le jeu, encore une fois. Et puis, alors, certes, les deux buts encaissés sont effectivement une gêne. Malgré tout, et bon, je vois le verre à moitié plein, le fait de marquer beaucoup de buts, pardon, mais le football, ça reste au final un sport où vous devez marquer un but de plus que l'adversaire. Et pour le coup, le PSG en marque beaucoup plus que l'adversaire au final. Et c'est pas si dramatique, entre guillemets. On ne joue que la deuxième journée.
Et dans cette émission, on a souvent parlé d'autres exemples comme Bielsa à l'époque et tout ça, où on a un beau spectacle, voire avec Guardiola.
Ouais, mais est-ce que c'est la logique est-ce que Galtier a la même logique que Guardiola ou Nagelsmann ? Moi, je pense qu'il est quand même dans le moule du football français. Et ce qui l'a caractérisé aussi, c'est souvent une assise défensive solide. Alors peut-être que ça va être aussi un changement de logiciel pour lui, finalement, de mettre un but de plus que l'adversaire. Mais connaissant sa formation, à mon avis, les deux buts, il n'a pas dû les apprécier.
Mais de toute façon, on est pour l'instant sur des journées de Ligue 1 et on n'ira pas au-delà pour l'instant. Alors, il commence ce PSG la saison donc en boulet de canon, mais lui aussi, il commence sa saison en boulet de canon. C'est Neymar, 3 buts déjà à son actif, un doublé au Parc des Princes. Un Neymar nouveau,
presque
on va dire.
Triplé, hein.
Un peu comme le Beaujolais nouveau, on a un Neymar nouveau, revenu en grande forme de ses vacances. Ferait-il soudain de l'ombre à Kylian Mbappé, le joueur au centre du nouveau projet, là aussi nouveau, du Paris Saint-Germain? On le savait depuis la fin de saison. Alors, les faits qui alimentent les réseaux sociaux depuis la victoire. Éric Srabesandratana, vous étiez au Parc. Est-ce que vous pouvez nous relater ces quelques faits? Parce que c'est des faits avant que ça ne fasse le tour, disons, des commentaires.
Par rapport à quoi,
Kylian Mbappé, son attitude.
Vrai, c'était assez surprenant, c'est vrai. J'avoue franchement que de le voir jouer, de le voir. Alors je sais pas. Le souci, est Galtier après le match disait que c'était un souci de match en fait. Il est un petit peu en décalage en termes de préparation par rapport aux autres. Son dernier match était il y a 3 semaines. Donc, il ne faut pas oublier quand même. Donc,
oui,
ça veut
il n'était pas au Trophée des Champions, suspendu, blessé
quand même
la semaine dernière.
C'est une grosse marche par rapport aux autres qui ont joué depuis et qui ont joué beaucoup. Donc, lui arrivait. On sait qu'il mettra toujours. Et d'ailleurs, au fur et à mesure du match, je trouvais qu'il était beaucoup plus cinglant et qu'il avait un peu plus d'énergie. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, ça ira mieux.
Il a été impliqué dans la plupart des buts.
Je pense que le fait d'avoir raté ce pénalty, ça l'a peut-être miné énormément.
Alors, il y a des faits, effectivement, l'histoire du pénalty. Mais même dans son attitude...
Son body language.
Voilà. Oui. On dit qu'il était...
Ah non, mais tout le match après. Alors, bien sûr, on n'a pas fait attention. Moi, j'ai pas fait attention au début du match. Donc, mais c'est après, au fur et à mesure, qu'on voyait que voilà, il râlait, qu'il traînait un peu les pieds, qu'il baissait la tête. Même la célébration sur son but, il célèbre pas le but. Il y a eu, ouais, c'était assez surprenant quand même.
Juste la semaine dernière, nous étions ensemble sur ce plateau, hein, Annie, Eric, et je disais un truc. Alors pour le coup, en rigolant, mais au final. Quand vous voyez contre Nantes, contre Clermont également, vous voyez ce duo Messi-Neymar qui fonctionne. Hein,
Le temps ancien.
Qui marchait exactement comme à l'époque de Barcelone. Et je disais la semaine dernière, ah, ça va être compliqué pour le PSG de réintégrer Mbappé à duo-là.
Ils étaient trois à Barcelone en fait.
Aussi, voilà, avec soit Luis Suarez, soit David Villa, effectivement, à une époque. Mais j'en plaisantais, mais au final, c'est vrai qu'on est presque en train de se dire, et on en parle depuis plusieurs semaines déjà, ah, Messi-Neymar semble tellement en forme que ça fait presque de l'ombre à Mbappé. Alors, je ne suis pas dans la tête de Mbappé et on ne connaît sans doute pas toutes les histoires, mais c'est vrai que il est jaloux. Non, il n'est pas jaloux parce qu'il sait qu'il a marqué tant de buts, mais c'est invraisemblable ce genre de réaction en tout cas.
Kylian Mbappé boude-t-il ? Eh bien, écoutons Marco Verratti, hein, son camarade de jeu. Pour lui, ce n'est pas grave et c'est toujours au micro de Martin Grèze et c'est pas grave non plus.
Kylian, c'est un joueur qui va toujours faire bien. Je pense qu'avec les pénalties ratées, il boude un peu, mais c'est normal. C'est un grand joueur, il va faire toujours la différence. Quand il rate quelque chose, il est déçu, c'est normal, mais après, il l'a montré. Avec déjà le premier but, il était décisif. Ça fait plaisir quand on est énervé parce que ça veut dire qu'il tient beaucoup à cette équipe, qu'il va faire bien et il va faire la différence.
Nabil, c'est utile au groupe d'être énervé. On se rappelle par exemple les joueurs uruguayens, hein, toujours cette garacharo à ce qu'ils ont, cette envie toujours de gagner qui ne les quitte pas, qui les rend des fois désagréables.
Oui, non, c'est bien d'être énervé comme vous dites, mais bon, je trouve que c'est
aussi. C'est pas moi qui le dis, c'est Verratti. Hein.
C'est plus un discours de circonstances. Oui, de toute façon, il peut pas dire autre chose, Marco Verratti. Peu, ouais. Parce qu'on peut être mécontent après avoir raté un penalty, mais on peut pas le manifester sur tout un match.
Surtout que ce penalty, c'est ce qu'on se disait. Il le rate ou aussi il y a un très bon quartien. On voit qu'il le prend du coup de la main.
Moi, c'est pas le penalty raté qui crée sa frustration et l'ambiance qu'il met dans ce match. C'est le deuxième penalty qu'il pensait tirer et que Neymar a tiré tout simplement parce que les choses n'étaient pas dealées comme ça. Parce que quand il a prolongé, il a tout négocié. Il veut le pouvoir absolu. Et il se rend compte que, comme l'a dit à juste titre Salim, il a été absent deux matchs et puis il y a deux joueurs qui sont pas là.
Le PSG gagne sans lui.
Il y a deux joueurs qui sont pas là pour être des accompagnateurs parce que il y en a un, il a gagné 7 ballons d'or. Et l'autre, quand il est au top, c'est quasiment le meilleur joueur au monde. C'est comme ça. Donc il va falloir retrouver
un
équilibre dans cette équation qui peut paraître parfois insoluble, disons clairement les choses, Annie, parce que qu'on le veuille ou non, il y a ce qu'il y a sur le terrain, mais il y a quand même une histoire de leadership. Il y a des jeux de pouvoir.
Des jeux d'ego.
Et des jeux d'ego surtout, et d'ego surdimensionné. Et bon courage à Christophe Galtier, parce que là, il n'est plus en conférence de presse, il est dans le réel.
Ben on va l'écouter, Christophe Galtier, parce que vous allez voir, dès la fin du match, il a un peu botté en touche, mais il a senti qu'il se passait quelque chose.
Simplement, voilà, ce sont des joueurs de très haut niveau, avec de la personnalité, du caractère, chacun a sa manière d'exprimer. Donc ça, c'est anecdotique. Ce sont des joueurs qui aiment marquer, qui veulent faire marquer. Avoir quelques problèmes avec ce profil de compétiteur et de grand joueur, c'est pas trop un problème.
Bonne chance au coach, parce qu'on a eu d'autres épisodes aussi, ouais. Eric.
Ouais, mais je suis pas trop inquiet quand même. Et je pense que c'est plus positif pour le Paris Saint-Germain qu'autre chose. Parce que en termes de concurrence, en termes d'envie de
ça
briller,
ça n'avait pas été trop quand même entre Cavani à l'époque et Neymar déjà.
Oui,
hein,
sauf que là, on a un Messi-Neymar qui fonctionne à fond, oui. Et du coup, un Mbappé qui va devoir être à la hauteur de ce que ça demande. Donc je pense que ça va tirer tout le monde dans le bon sens et que justement.
Mais lui, il les voyait peut-être pas aussi fort dans sa réflexion en fait.
Bah, il les voyait pas si fort. C'est surtout qu'ils étaient pas si forts. Ils l'ont pas fait jusqu'à maintenant.
Pour la suite des événements, peut-être. Ouais. Qu'il n'imaginait pas les choses comme ça.
Bah, il imaginait, ouais, après, certainement prendre le leadership.
Soit,
ouais.
Il a fait le choix, soit il allait au Real et puis Karim lui laissait les pénaltys, soit il reste avec l'équipe Copacabana. Et eux, ils ne sont pas là pour te mettre en confiance tout le temps.
Par contre, ils vont jouer.
Dans les prochaines semaines, ce qui va être intéressant, c'est en tout cas la gestion et comment va s'en sortir Christophe Galtier. Les dernières saisons, c'est souvent ce qui se passait pour les entraîneurs qui ne sont pas les plus mauvais, qui arrivaient sur le banc, Tourelle, Pochettino et tant d'autres. Ben, c'est au final la gestion des égos. Souvent, c'était le cas Neymar qui était plus difficile à gérer.
On dit quand on vient au Paris Saint-Germain, on vient gérer des égos.
Voilà,
aussi.
Et c'était le cas Neymar qui, pour le coup, était difficilement gérable. Ben, là, désormais, on va voir ce qui va passer avec Mbappé, avec Neymar aussi d'ailleurs, hein, pour le coup.
Entre deux.
parce qu'on a vu Neymar aussi, les tweets sur les réseaux sociaux, ce que lui a liké, hein, vous savez, maintenant on regarde tout ce que font les joueurs, n'est-ce pas, et les likes avec d'autres personnes qui ont critiqué l'attitude de Mbappé à tirer un penalty alors qu'il y avait Neymar, et lui, Neymar himself, a liké ces tweets-là. Forcément, tous ces éléments-là vont être regardés.
Ce sont des messages indirects.
Et là, Galtier, va falloir voir comment lui va gérer.
Eric, est-ce que vous imaginez que dans le contrat qu'a renouvelé Mbappé avec le Paris Saint-Germain, il a exigé de tirer les pénaltys ?
Non, je ne pense pas. Toi, tu penses qu'il a...
Non, mais attendez, je te donne ma logique, après tu me réponds. Moi, je pense que quand il a négocié sa prolongation, c'est lui qui est, comme Annie l'a dit en introduction, au centre du projet. En NBA, on dit... Vous êtes le franchise player, c'est-à-dire que en gros, dans le basket, quand il reste un dernier ballon à prendre pour un shoot de la victoire, c'est celui qui est désigné comme le centre du projet ou le franchise player. C'est exactement ce qui a été dealé. Il s'en cache pas non plus dans France Football quand il dit qu'il veut gagner le ballon d'or. Gagner le ballon d'or, c'est aujourd'hui des performances individuelles, c'est faire des stats. Si vous marquez 20 ou 25 buts sur le terrain et dans le jeu et que vous laissez les pénaltys à un coéquipier, peut-être que le Paris Saint-Germain est une équipe qui se procure beaucoup de pénaltys, bah, peut-être que vous pourriez finir à 32, 33 buts. Mmh. Ça rentre, on va dire, dans sa feuille de route. Donc pour moi, c'est absolument pas choquant. Messi tirait les pénaltys au FC Barcelone, Lewandowski les tirait au Bayern. Vous êtes le joueur clé. Et je pense que ça a été négocié.
Alors Eric.
D'accord. Ouais, bah, peut-être qu'il a été négocié.
Peut-être qu'à ton temps, on ne les négociait pas.
Non, mais si. Mais il n'empêche qu'il a tiré ce premier pénalty. Donc après, dans l'ordre des choses, Neymar arrivait en tant que deuxième tireur. Donc les choses étaient normales en fait par rapport au système.
Alors je te pose la question, pourquoi il demande le ballon ?
Mais parce qu'il est frustré d'avoir raté le premier et qu'il se dit, oh, il va être sympa, il va me laisser. Sauf que Neymar, il est là aussi pour. Et moi, je suis désolé, mais quand on a un joueur comme Neymar qui tire des pénalités comme lui,
je vais faire tirer Messi ou. Justement, on est allé regarder dans les statistiques. Et le problème, même, je dirais, c'est que le PSG a beaucoup de bons tireurs de pénalty. Neymar est un taux de. Un problème pour Galtier. Est un taux de réussite de 85,82 et le 82 est important de pourcent, bien sûr. Qui est le deuxième selon
Ramos.
Vous Ramos. Eh oui. À 85%.
Il les tire très bien.
Et on se souvient de lui, évidemment, au Real Madrid. Il ne les a pas tirés à Paris encore. Ensuite, on a Kylian Mbappé.
Il a tiré contre Kevin.
À 80%. Oui, c'est vrai.
Et il y a Messi qui arrive normalement.
Et ensuite, Messi avec 77%. Et bon. C'est là, effectivement. Alors, si vous étiez le coach du Paris Saint-Germain, Salim, qui mettez-vous comme numéro 1?
Mais.
Moi, je suis content. Déjà, moi, je vais juste intervenir. Moi, je suis content s'il y a un match de Coupe de France qui se finit au pénalty parce que tu as déjà au moins 4 tireurs de pénalty.
Oui.
Donc, c'est pas mal.
C'est vrai.
La logique, c'est Neymar.
À un moment donné, Neymar.
Mais le problème, c'est que la logique du projet du Paris Saint-Germain
qui a plus Neymar.
Retenu sa star.
Et d'où le propos que j'ai évoqué il y a quelques instants, la fameuse gestion d'ego qui a fait tâche et qui a beaucoup embêté Pochettino, Tourelle et tant d'autres, ben là, Galtier, c'est une épreuve pour lui de pouvoir gérer ses égos-là.
Le club,
et le Campo, Senko.
Je pense que ce sera plus facile à gérer. Je pense surtout que le projet, c'est le club. C'est pas Mbappé, c'est pas
Neymar. Oui, mais est-ce qu'ils le comprennent, les joueurs ?
Mais il n'empêche que c'est vrai, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, si tu veux être sûr de marquer des pénaltys, moi, je fais tirer Neymar. Parce que Neymar... Il a raté les pénaltys, ça lui est arrivé une fois tous les 50 ans, mais franchement, il tire tellement bien les pénaltys. J'ai jamais vu un mec qui tirait aussi bien les pénaltys que Neymar.
Moi, je suis sûr que ça ne s'est pas passé comme ça.
Non, mais bien sûr,
je vais te dire un truc. En gros, là, ils sont tombés dans le piège. Mbappé, à mon avis, il a dû leur dire, vous avez voulu que je reste ? Vous m'avez dit oui, pour ça. Bah, allez l'expliquer maintenant aux joueurs brésiliens Neymar, tout simplement. Et c'est là où on va voir si le club... Et assez costaud. Parce que sportivement, évidemment que c'est un non-sens. Non-sens puisque c'est Neymar qui doit les tirer. Sauf que c'est une décision politique sportive du club.
Et
donc, il y a un conflit. Et moi, je pensais qu'il allait avoir un round d'observation, Annie. Mais non. Dès la première journée, c'est Penalty Gate épisode 2. Quoi.
C'est ouf.
Salim, qu'est-ce qu'il peut faire, selon vous, Galtier? On dit qu'ils vont se réunir.
Campos a géré le problème.
C'est intéressant parce que Galtier et Campos, on sait qu'ils s'entendent bien. On a déjà vu à Lille et ils savent qu'il y avait eu le feu avant et à l'époque d'Unai Emery et qu'il faut peut-être agir tout de suite.
Là, mais ce qui aurait été presque bien, c'est de entre guillemets pas désigner numéro 1 ou numéro 2 ou presque dire à tel match chez toi, à tel match chez toi, etc.
Je pense que c'était ça. C'est ce qui a laissé traîner dans l'esprit Galtier.
Alors c'est ce qu'a dit Galtier. Mais moi, enfin, de ce que j'ai pu
entendre, je pense que c'est pas ça.
Je pense que la réalité, elle n'est pas comme ça. Il y a des choses qui ont été dites.
Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est ça ?
Non, ce n'est pas qu'on ne peut pas dire. Moi, j'ai l'impression, comme vous l'avez dit, Annie, à juste titre, que celui qui est au cœur du projet aujourd'hui, il s'appelle Kylian Mbappé.
Ah non, mais bien sûr, ça, donc, c'est sûr. C'est l'avenir.
C'est ce qu'on nous a dit au mois de juin. C'est après, effectivement, sûr, au mois de septembre, c'est un
donc,
peu différent.
Kylian Mbappé, pour rester, logiquement, il
on
a dit
des
choses.
Oui à tout.
OK ? Et maintenant, c'est au club aussi de faire son boulot. Et
d'aller l'expliquer.
Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. Un, il ne s'attendait peut-être pas à ce que Neymar reste. Et deux, il ne s'attendait peut-être pas à ce que Neymar soit aussi fort. Je veux dire,
il y a une Coupe du Monde.
Personne
ne
s'attendait
monde,
à ce que Neymar soit aussi fort.
Non,
déjà.
On savait qu'avec la Coupe du Monde, il risquait quand même de. Ils ont touché son orgueil, ouais. Ils ont touché son ego. Et on voit quel joueur ça peut être. Donc, il va falloir maintenant avoir. Vous savez, c'est comme dans Star Wars, hein, il faut trouver un équilibre de la force. Sinon, vous savez ce qui se passe ? Ils vont tous être rattrapés par le côté obscur de la force et ils vont plus penser à eux qu'à.
Dans quelques jours, dans quelques semaines, rappelez-vous, il y a quelques années, quand il y avait eu ce cas entre Cavani et Neymar, quand on pensait tous que le ballon devait être donné à Cavani et Neymar avait voulu frapper, avait marqué et avait été sifflé par le public. Imaginez dans quelques semaines, quelques mois, ça arrive, la même chose arrive avec Neymar qui peut marquer pourquoi pas un quadruplé et Mbappé dit non, c'est à moi de tirer le pénalty, ce sera pas à toi,
qui sera sifflé, pas. C'est ça
et, mais vous imaginez ce qui pourrait se passer dans le public, vous imaginez Mbappé qui serait sifflé, enfin
Neymar sifflé,
une crise invraisemblable pour un pénalty, c'est dingue.
Oui, mais un pénalty qui symbolise en fait finalement qui n'est que
pouvoir.
Le symbole
c'est
en tout, fait du
mais,
lutte de pouvoir,
mais c'est toujours le même leadership. C'est toujours le même problème, cette politique.
Et ben, si on donnait à Ramos, ça réglerait
mais
peut-être
mais
le problème entre tout le monde.
Non, mais Mbappé sera pas content.
Il va falloir faire preuve de stratégie politique, notamment de la part de Mbappé. C'est à lui maintenant d'être intelligent.
Sans
doute. S'il veut être leader.
Exactement.
Pour terminer sur le PSG, une petite mention spéciale à trois joueurs et je vais vous interroger chacun puisque vous êtes trois. Allez, je commence par vous, ouais. Nabil. Mention spéciale peut-être à Renato Sanchez.
Oui,
Renato
belle
Sanchez, belle entrée.
Allez, avec Mendes côté gauche, Mendes qui crochette, Mendes qui va y aller.
Oh
Mendes
là
qui
là
va
là
pour Renato Sanchez.
Oh le premier ballon. Renato Sanchez, le 30 en retrait de Nuno Mendes.
Le sourire derrière, c'est non, celui d'Eric Ravessandratana.
Il ne faudrait pas qu'il fasse trop d'ombre.
Qui commentait avec.
De toute façon, déjà, Vitinha a pris son troisième, donc il ne va pas jouer. Il ne va plus jouer, donc déjà, il va rejouer, lui.
Qui donc commentait avec Bruno Salomon, notre camarade de France Bleu. Renato Sanchez.
On ne sait pas dans ce registre-là qu'on l'attend forcément, mais pour prendre de la confiance.
C'est de la chance de débutant.
Non,
premier
c'est
ballon, coup,
c'est
premier
quand même
but.
Un bon joueur, quoi, surtout quoi.
Non, mais après c'est plus facile d'arriver. Il rentre.
Et quand t'es entouré comme ça.
Ouais, c'est
et
ça.
Puis derrière, moi, à Monaco,
tu te projettes plus facilement devant le but quand t'as les joueurs comme ça devant.
Ouais.
Hugo Ekitike.
Oui.
Premier pas, on va dire, sur la pelouse du Parc des Princes, intéressant.
Il a eu 2 minutes de jeu, donc ça va être compliqué. Mais je demande à voir parce que je l'ai trouvé émotionnellement un peu débordé sur le premier match à Clermont où il a été limite de gueuler après c'était qui après Neymar ou Messi parce qu'il lui avait pas donné le ballon. J'ai dit ah attention garçon, là t'es plus à.
Parce que sa première interview, elle était un peu hein.
Ouais non. Mais c'est pour ça que je demande à voir. Je pense qu'il va falloir qu'il calme
s'adapte.
Ses émotions et qu'il accepte son sort, en fait.
Et puis, une petite parenthèse sur un ancien Parisien, mais aussi ancien de Première Ligue, cette ovation pour un ancien du club et le public apparemment
sympa,
n'oublie
super,
pas. Et c'était très sympathique. C'est Mamadou Sakho, devenu absolument. Défenseur de Montpellier, après avoir été aussi à Liverpool et avoir traversé des situations très amusantes.
Non, effectivement. Et c'est vrai que c'était beau de voir ça. On le rappelle, lui qui a été si jeune capitaine.
C'est un titi parisien.
Si jeune capitaine au PSG à moins de 18 ans, alors d'un Valenciennes PSG notamment, il a marqué l'histoire du club et le public ne l'a pas oublié. Ça,
ouais. On se souvient des accusations à tort.
Oui,
absolument.
Et il a raté la grande compétition.
C'est
l'Euro 2016.
L'Euro 2016. Quelque chose qui est irrattrapable. Ouais. Mais Mamadou Sakho, eh bien, bravo d'avoir été encouragé par tout un stade. Alors, embrouille à Paris, embrouille aussi à Londres, capitale, qui vit un été de canicule, de sécheresse. Alors, est-ce que ça échauffe les esprits ? Il faisait 33 degrés à Stamford Bridge samedi après-midi.
Il faisait 23 degrés.
Pereira without swing. Koulibaly qui signe sa première à Stamford Bridge, un but
mental du défenseur sénégalais. 1-0 pour les Blues.
Welcome to the bridge, big man.
Alors, il faisait chaud aussi pour lui, mais dans le bon sens du terme. Et c'est par lui qu'on va commencer, car pour son premier match à Stamford Bridge, hein, depuis son transfert de Serie A vers la Première Ligue, et dans le derby de Londres, Chelsea-Tottenham, eh bien, l'international sénégalais Kalidou Koulibaly, vous venez de l'entendre, a inscrit son premier but sur une action pleine de maîtrise. Pas mal pour un défenseur.
Ouais, super, super
bien. Eric fait les mêmes. Il fait les mêmes.
Non, mais elle n'est pas facile à faire. L'équilibre est beau et puis la frappe, elle est magnifique aussi. Donc, franchement, reprise de volée comme ça.
Oh, comment il vous décrit ça, Lyon ?
Par contre, en tant que défenseur, je suis un peu désolé, mais qu'est-ce qu'il fait tout seul ? Parce qu'il est tout seul quand même, c'est quand même dramatique. Mais après, le geste est magnifique
et
le but est.
C'est le problème de Tottenham. C'est pas le problème de Koulibaly.
Ça, c'est il n'a pas dû apprécier.
En tout cas, belle entrée en première ligue pour Kalidou Koulibaly.
Mais vous savez, Kalidou Koulibaly, et évidemment, on le suit sur Rafi depuis longtemps. Depuis longtemps, je me dis, mais comment est-ce qu'un club de PL n'a pas pu aller plus tôt sur lui ?
Attends, Salim, je vais tout de suite te régler le problème.
Naples,
c'est prison de break.
Oui,
tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu ressors. C'est une manière d'expliquer que c'est un club
très sérieux. T'es très sérieux toi aujourd'hui. Rémi Ngono.
C'est un club. Non, mais c'est un club.
De Laurentiis.
Il est très sérieux aujourd'hui.
C'est un club où il est très difficile de partir parce que De Laurentiis, il a pas besoin de vendre forcément. Il a eu un accord. Alors je raconte quand même. Il avait déjà rencontré Abrahamovic sur un yacht à Monaco il y a quelques années et Chelsea avait proposé beaucoup plus d'argent. Ça s'est pas fait. L'année dernière, il avait un accord contractuel avec Manchester City, ça ne s'est pas fait. Et pour aller au bout des coulisses mercato, cette année, son choix préférentiel, c'était pas Chelsea. Il avait discuté avec Xavi, mais Barcelone ne pouvait pas l'acheter. Et De Laurentiis a dit de toute façon, je le vendrai pas à Barcelone parce qu'ils pourront pas payer. Voilà pour le dossier Koulibaly.
Juste une chose, je me souviens d'un de nos auditeurs internautes qui avait envoyé un des derniers cartons du Café des Sports et c'était carton rouge à Koulibaly. Il y en a marre qui reste aussi.
Ça ne tenait pas à lui.
C'est à lui.
Non mais ils ont proposé 70 ou 80 millions une fois d'euros pour lui. Il y a quelques saisons
même
de Chelsea.
Paris est intéressant.
Même PSG.
Mais Naples, c'était pas De Laurentiis, mais on se souvient de Maradona. Mal qu'il a eu à s'en extraire.
Absolument, mais c'est vrai que Koulibaly, il a l'air tellement PL compatible pour ça paraît une évidence. Et puis dans cette défense à 3, on se dit qu'avec Thiago Silva et le troisième joueur, là c'était Rhys James, ça peut parfaitement fonctionner. Enfin, ça va aller tout seul pour Kalidou Koulibaly, c'est une évidence.
Alors il a ouvert le score pour les Blues, mais ils n'ont pas réussi à garder l'avantage. Ces Blues, ils ont dû concéder un match nul, 2-2, renvoyé dos à dos. Est-ce que ça reflète la folle la folie qu'il y avait sur ce terrain hier, Salim ?
Honnêtement, non, parce que Chelsea doit largement s'imposer. Chelsea a été tellement dominateur. Tottenham, ils ont eu trois occasions dans le match. Ils ont marqué deux fois. Bravo pour le réalisme des Spurs.
Oui, parce c'est pas toujours.
Comment ?
C'est pas toujours pour les Spurs.
Non, absolument. Comme ça, mais là, hier, Chelsea, il y a eu des séquences de maîtrise assez folles. En fait, hier, Chelsea, ce qui leur manquait, c'était un neuf absolu. Un Lukaku en très grande forme.
Aubameyang arrive.
Si Aubameyang, effectivement, ça fait partie des tendances, effectivement, que Chelsea sera intéressé par lui pour 25 à 30
millions. Et c'est vrai, ils sont en discussion, Tuchel va absolument le faire.
Comme il le connaissait de Dortmund. Bah oui. Mais c'est vrai qu'un neuf, pour le coup, leur manque, parce qu'à côté de ça, Kanté a fait un énorme match d'ailleurs. Inquiétude pour Kanté à suivre dans les prochaines semaines. Je vous rappelle, quand Pogba n'est pas à 100%, Kanté n'est pas à 100%, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans pas longtemps. Il faudra voir aussi ce qui se passe pour le Français.
Si Kylian en plus est un peu chagrin.
Voilà, exactement. Mais en tout cas, hier, Chelsea a été tellement dominateur. C'est pour ça aussi, on l'évoquera après, mais qu'il y a une telle frustration de Thomas Tuchel. Parce qu'au-delà de lui et Kanté, là encore, on en parlera, c'est vrai que hier, Chelsea a été tellement au-dessus que c'est injuste de ne pas voir Chelsea s'imposer.
Alors, on sait qu'il y a beaucoup de passion dans ce derby de Londres. Et là, on a vu, sur le terrain, c'était les entraîneurs eux aussi qui ont joué leur rôle finalement.
Ah oui.
Tottenham et Conte avaient, il faut le souligner aussi, perdu trois fois contre le Chelsea de Tuchel. Alors là, ils étaient un peu contents de réussir à revenir au score. Et alors, il y a eu une poignée de main non amicale, on va dire, en fin de match, où Tuchel a essayé de tordre le bras ou a réussi à tordre le bras de Conte. Ça a abouti à l'exclusion des deux coachs parce que déjà en fin de première mi-temps, ils avaient été avertis. Écoutons le fougueux italien Antonio Conte qui a tenu à relativiser à la fin du match.
L'altercation avec Thomas Tuchel, il y a les images à la télé pour comprendre ce qui s'est passé. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Si je suis exposé à de l'agressivité, je deviens agressif à mon tour. Mais je le répète, il n'y a pas de problème. La chose la plus importante, c'est ce grand match qui a eu lieu entre deux équipes rivales. Pour nous, le point pris ici est vraiment très positif.
Alors, c'est sûr que c'était très important pour Tottenham, ce point gagné à Chelsea. Mais Thomas Tuchel, lui aussi, alors, il s'est expliqué en conférence de presse. Il a mis beaucoup de griefs contre l'arbitrage, il fait ça souvent. Mais il a dit, bon, c'est une agressivité qui est à mettre sur le compte de l'émotion. Il est quand même visé par une enquête de la Fédération anglaise.
Oui, mais parce qu'il a critiqué, pas qu'un peu, Anthony Taylor, l'arbitre de la rencontre. Et le problème, c'est que, ben, comme en France, lorsque vous venez à critiquer aussi ouvertement un arbitre, la Fédération ouvre une enquête et il pourrait être suspendu plus longtemps que son seul match de suspension.
Et entre deux, est-ce que ça arrive souvent? Parce qu'en Angleterre, hein, on se souvient de Wenger et Mourinho, on se souvient de... Il y a des entraîneurs comme ça qui ne supportent pas.
Oui, mais c'est des petits accrochages. Là, on l'a senti.
Des fois, on ne salue pas. Des fois,
Ouais, à la limite, il vaut mieux pas saluer. C'est pas bien pour le côté fair play, mais il vaut mieux passer comme ça plutôt que de faire ce qu'a fait Tuchel, qui en attrapant la main et ne lâchant pas la main, a demandé à Conte de le regarder dans les yeux. Ils ne sont pas à la même hauteur, déjà. C'était plus difficile. Mais non, mais voilà, c'était juste ça. Alors, il y avait eu des petits accrochages avant, comme on l'a dit, dans le match. Je pense que c'était très, très tendu. Ouais. Je comprends l'enjeu, je comprends mais ça n'a pas lieu d'être pour des. C'est quand même toi l'image de ton équipe. Voilà. Si tu dégages déjà un manque de sérénité comme ça, c'est compliqué quand même.
C'est fou que ça aille jusque. Que les entraîneurs soient évidemment à l'unisson de leur équipe et des supporters.
Oui, mais que là, tu sois pris dans le match. Mais là, ça va trop loin.
Mais après, j'insiste sur Tuchel, il y a une frustration globale sur le match, le fait de faire 2-2 alors qu'il domine largement.
C'est la définition du football, c'est sûr.
Oui, mais Tuchel, quand il part en courir comme à la Mourinho, jusqu'au joueur machin, là, tu vois.
C'est ça, il y a plusieurs séquences dans le match parce que sur le but égalisateur de Tottenham, déjà en fait, c'est au début de l'action où il y a une grosse faute sur Havertz en fait et l'arbitre ne le signale
c'est
pas.
C'est vrai qu'il y a faute.
Donc il y a frustration de Tuchel et sur l'action se poursuit, Tottenham égalise. Donc là, il y a grosse fâcherie entre les deux et entre les bancs d'ailleurs, hein, tout le monde se lève à ce moment-là. Donc là, déjà très tendu. Le deuxième but de Chelsea, Tuchel, comme par hasard, il court comme pas possible en passant évidemment devant le banc d'Antonio Conte et puis la poignée de main finale. Et puis même, quatrième séquence, le fameux message Instagram d'Antonio Conte à l'issue du match. Hein, je le cite très, très précisément. Heureusement que je ne t'ai pas vu, puisque sur le deuxième but de Chelsea, Conte a sa main sur son visage, donc il a la tête baissée, il ne voit pas. Heureusement que je ne t'ai pas vu, te faire trébucher aurait été bien mérité. Enfin voilà, c'est le genre de truc où on se dit, en Angleterre, je peux vous le dire, ce matin, je lisais la presse, on attend déjà le match retour. On attend déjà le match retour Tottenham-Chelsea.
Mais ça sera pour après la Coupe du
Monde. Voilà, c'est ça.
Nabil, c'est vraiment des mauvais exemples.
Très mauvais exemples. Bon, Eric a raison de rappeler que c'est vrai que c'est des managers, c'est des entraîneurs, mais c'est aussi des éducateurs.
C'est ça.
Et ensuite, vous avez des catégories jeunes dans ces clubs-là. Quand vous voyez l'entraîneur de l'équipe première à deux doigts de se battre, comment vous l'expliquez aux gamins?
Deux fois, trois fois quand même. Voilà. C'est exagéré,
donc,
là.
Donc ça, je pense qu'ils ne vont pas rigoler avec ça.
C'est bizarre que personne n'a réussi à les calmer. Quand
ils, doivent être aussi, eux, recadrés par leur club. Parce que si on parle d'institution, on parle aussi parler d'institution. Ça témoigne quand même de l'intensité de la pression dans cette ligue. Et surtout, deux clubs, finalement, qui vont être dans une rivalité sur toute la saison. Parce que peut-être aujourd'hui, le rival de Tottenham et Chelsea, c'est Tottenham et Chelsea, c'est peut-être pas City et Liverpool.
Non,
ça témoigne. Alors, on verra. Hein. Mais c'est des équipes. Aujourd'hui, la bataille pour le Big Four, elle est coriace comme jamais. Il y a
ça
six
fait quelques
équipes.
Années déjà.
Voilà,
hein,
ça fait six équipes.
Que tout avait été un
et
peu
vous
rebattu.
Pouvez avoir une très bonne équipe. Vous avez dépensé des millions et des millions et vous pouvez rester en dehors des élus. C'est aussi ça que ça symbolise.
T'es en train de parler de Manchester United ou
justement, après, très bonne transition parce que c'est évidemment l'autre fait marquant, ce monument du football anglais qui chancelle. Now he looks for Mbeumo. Mbeumo, it's four! It's brilliant from Brentford.
Et donc la joie du Community Stadium, car United a été martyrisé par Brentford, concassé lors de la première période, 4-0.
Passe décisive de Eric Ravessandratana. Et les Red Devils sont 20e dernier du championnat d'Angleterre après deux journées et deux défaites. Alors l'une face à Brighton. Alors là aussi, hein, c'est pas des fers de lance théoriquement ces équipes. Brighton, petit budget. Et c'était à Old Trafford, perdu 2-1. Et là, l'autre à Brentford. Giflé 4-0. On soulignera le but marqué par le néo-camerounais international, Brian Mbeumo. En tout cas, 6 buts encaissés pour un seul marqué. L'équipe est dernière En plus, c'est quand même l'équipe de Cristiano Ronaldo, Salim Boumgali. Oui, que se passe-t-il?
Peut-être pas pour longtemps.
Et je rappelle tous ces deux défaites avant le troisième match face à Liverpool, hein, la semaine prochaine.
Oui, exactement.
Ça va être sympathique aussi pour United. Non, mais c'est vrai que sur ce match, vraiment, la semaine dernière, je le disais, j'avais l'impression que c'était la 39e journée de la saison dernière. Hein, c'était une suite. Là, aujourd'hui, c'est la 40e journée. Hein. On est vraiment dans une suite où on pourrait mettre...
Mais on a changé d'entraîneur.
Mais justement, j'ai l'impression que c'était toujours Ole Gunnar Solskjær hein, sur le banc pour le coup. Parce qu'au final, la manière de jouer est exactement la même. CR7, le pauvre, il est tout seul. C'est le seul qui a été à peu près... qui a essayé de faire des choses hein, sur les rares centres qu'il a pu obtenir. Il a mis des têtes, il les a mis à côté, etc. Mais il a essayé de faire quelque chose. Sinon, tout le reste autour, c'était une cata. Maguire, qu'Eric Rabissandratana adore, a été en dessus de tout.
Cette fois-ci, il n'a pas été non plus là.
Mais j'individualise, mais pour dire qu'Eric Tenard, oui, il a tenté de changer des choses, dans la manière de se préparer, etc. L'intersaison a été plutôt bonne, pour le coup, pour United. Mais au final, dans le jeu, parce que c'est ça qui compte, il n'y a rien de changé aujourd'hui. Donc oui, j'ai envie de dire,
mais
pour le coup...
c'est à tous les étages, Manchester United,
oui,
c'est n'importe quoi.
Moi, je pars du terrain.
C'est vrai que là, ces dernières années...
Il veut faire un copier-coller de l'Ajax. Mourinho, il est arrivé, il a fait venir des superstars. On a vu ce que ça avait donné. Bon, bref, le bilan est mitigé. Il a quand même gagné une Europa League. C'est catastrophique.
C'est vrai qu'on a l'impression que le projet sportif, il n'est pas du tout réfléchi.
Eric Ten Hag dit... Salim, il dit « Nous avons tous vu le même match. Brentford avait plus faim que nous. Nous avons fait trop d'erreurs individuelles pour que notre plan fonctionne. Cette défaite n'a rien à voir avec la tactique. »
Non, mais il faut lui laisser du temps, soit il faut lui dire au revoir tout de suite. Si on estime que c'est plus l'homme de la situation tout de suite parce qu'il y a une telle zizanie dans le club, bah, il faut faire le choix tout de suite. Moi, je pense que leur intérêt, évidemment, c'est de lui laisser du temps. Deux, régler le problème Cristiano Ronaldo. Ronaldo, c'est pas un problème. Ronaldo, c'est un buteur. Si vous mettez dans des bonnes conditions, il mettra du but.
Absolument.
Mais si votre logiciel ne correspond pas à Cristiano Ronaldo, vous ne conservez pas Cristiano Ronaldo, d'autant que lui, il veut partir. Cristiano Ronaldo, il n'en peut plus de ce vestiaire. Certains vous disent il n'est pas sympa avec les autres, il n'y en a que pour lui. D'autres vous disent quand même qu'il est dans un vestiaire où la saison dernière, quand Manchester United perdait,
heureusement
il y en
qu'il
a
était
qui
là.
Faisaient la fête. Bon, au niveau de l'exigence, ça ne correspond pas totalement à ce que lui
veut. On aurait déjà entendu des choses sur Ronaldo s'il y avait eu d'autres problèmes dans le vestiaire aussi.
Et autre élément très important, il y en a qui disent personne ne le veut, mais enfin, s'il demande à partir, c'est certainement qu'il a un accord quelque part.
Ouais.
Et probablement avec l'Atlético. On verra. Moi, c'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je l'ai entendu. Régler le problème Cristiano Ronaldo. Et ensuite, si vous faites le choix de Ten Hag, lui laisser du temps, comme Arsenal l'a fait avec Arteta, avec des hauts et des bas, et accepter les bas. Voilà, c'est ça.
Non, mais là,
les bas sont très bas, là, quand même.
Mais les mots de Ten Hag, là, c'est genre, c'est pas de ma faute, c'est
oui,
les joueurs.
Ça ressemble tout à fait
c'est pour ça que je voulais
moi, c'est pas la tactique, c'est parce que le plan est mis en place. Si on n'a pas l'attitude qu'il faut pour mettre en place ça veut dire que c'est les joueurs qui respectent pas.
C'est ça qui m'a choqué après la rencontre, c'est qu'ils disent que les joueurs n'ont pas. Parce qu'il a parlé de responsabilité aussi après la rencontre, que les joueurs n'ont pas pris leur responsabilité.
Oui,
ce qui s'entend, les joueurs n'ont pas été bons, pas de problème. Mais déjà, et vous avez raison de dire, Nabil, en plus qu'ils le disent en public, qu'ils le disent en privé dans le vestiaire.
Mais là, pour l'instant, il était meilleur en conférence de presse que
absolument
mais qu'ils fassent attention hein.
qu'ils ne prennent pas une part de responsabilité, ça c'est très dangereux.
C'est
au lendemain du match en plus, il est mis encore
matchs,
plus
au bout de deux matchs.
Moi je me souviens que la semaine dernière vous aviez dit qu'il avait eu en plus des choix tactiques un peu étonnants contre Brighton.
La semaine dernière oui, contre Brighton, lorsqu'il a mis Eriksen en faux neuf en disant en plus non mais à l'époque de l'Ajax, lorsqu'il a commencé à l'Ajax il a déjà joué en faux neuf. Ouais, c'était il y a 10 ans, Coco. Il y avait Rashford, tu peux mettre Rashford en neuf. Rashford qui est loin d'être sensationnel, mais quand même. Donc, il a plein de choix assez bizarres. Et pour se mettre encore plus ce vestiaire à dos, le lendemain de la défaite face à Brentford, alors qu'ils avaient congé, il leur a dit venez et courez les 13 km de différence, puisqu'il y a eu une différence
ridicule,
de 13 km entre ceux de Brentford, les joueurs de Brentford la veille et du United. Donc, il a demandé aux joueurs de courir 13 km le lendemain. Pardon, mais si vous voulez vous mettre les joueurs
ça.
À dos, c'est le genre d'attitude à faire. Vraiment,
et
allez-y.
Lui, c'est pareil. Hein, c'est vrai qu'il est à Ajax d'Amsterdam, il était dans un moule qu'il connaissait parfaitement. Là, il a basculé un peu comme Christophe Galtier dans le grand bain.
Mais on peut le dire, ça va être un PPA, hein, passera pas l'automne. Hein.
Ah ouais, tu sens pas.
Vraiment, ça sera pas l'hiver.
Peter Bosz, l'entraîneur néerlandais de Lyon, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des joueurs. Non mais il y a un moment, il faut aussi assumer quand ça se passe pas bien. Et tout mettre sur Cristiano Ronaldo, je suis désolé, je fais pas mon Rémi Ngono. Hein.
Mais
honnêtement, non, mais je trouve ça mais d'une indélicatesse à son égard.
Est-ce qu'on peut imaginer Cristiano Ronaldo licencié?
Non mais c'est une blague.
Parce que mettre fin à son contrat, c'est licencié. Ça en fait.
Bah ouais, 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 bah oui, oui, puisque c'est de toute façon, à partir du moment où oui, il, à partir du moment où,
exactement,
où, bah, bien sûr.
Alors, pourquoi on le laisse pas partir?
Bah, ouais, mais parce qu'on a Cristiano Ronaldo. C'est quand même là, si on regarde si on regarde l'effectif.
Il était le troisième meilleur buteur de.
J'allais dire
de
si on regarde l'effectif. Quand t'as Cristiano Ronaldo, t'as pas envie de laisser partir. C'est pour ça qu'ils veulent pas le laisser partir, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en grand danger là.
Juste, ce sont nos confrères de The Athletic, toujours bien informés, qui expliquent que United, pour une fois, serait potentiellement enclin à le laisser partir si United d'abord trouve quelqu'un pour le remplacer.
Eh ben, ils sont sur Icardi. Voilà. C'est le moment de pigeonner. C'est le moment de pigeonner Manchester United. Mais ils ont versé un nombre
de commissions.
Mais non, mais attendez, c'est très sérieux ce que je dis. Ils ont versé un nombre de commissions ces dernières années. Je pense que c'est le club qui a versé les commissions les plus importantes dans le football international. Ils ont fait venir des joueurs un nombre de joueurs incroyables à des tarifs incroyables pour un résultat absolument famélique.
Juste, j'insiste. C'est incroyable. J'insiste, on est dans une période, pourtant on n'est que le 15 août au final, mais on a l'impression qu'on est presque le 30, où United fonctionne en mode panic buy. Ah, attends, au milieu de terrain, ça ne marche pas. Ah, peut-être que Rabiot, on va essayer de le faire venir. Ah, on attaque.
Ten Hag, qui veut reconstituer une ligue dissoute des anciens joueurs de l'Ajax d'Amsterdam.
Anthony.
Et il a à fond aussi, et je vous le dis ici, sur l'homme qui a en partie renversé Vahid Halilhodžić, Hakim Ziyech. Il veut absolument qu'il vienne à Manchester United. Sauf que le club, le board, eux, ils sont un peu moins fans. Et si Chelsea n'est pas trop gourmand, il le fera bien.
Et juste en 10 secondes, Annie, attention quand même à cette attitude d'Eric Ten Hag, parce que si vous faites venir des anciens de l'Ajax, très bien. Sauf que je rappelle que Manchester United, c'est une institution. Les supporters, à un moment donné, lui diront mais c'est pas l'Ajax de United, c'est Manchester United, c'est pas l'Ajax Amsterdam. Donc, et les résultats, ben, forcément, s'il n'y a pas de résultats, on le fera payer.
Il y a peut-être une erreur aussi de l'avoir recruté, hein, parce qu'on sait ce qu'il produit comme jeu et on sait d'où il vient. On en reparlera donc de Manchester United. Allez, un petit crochet par le Ballon d'Or.
C'est un monument du football mondial qui disparaît de la liste. 7 ballons d'or remportés. Une première depuis 17 ans. Léo Messi, le spécialiste du ballon d'or, brille par son absence.
France Football a publié vendredi soir sa liste des 30 candidats au Ballon d'Or. Donc, c'est Cristiano Ronaldo et 29 autres. Cette liste pour la saison sportive 21-22 et non plus en année civile. Nouveaux critères aussi. On met en avant les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des postulants remises du trophée le 17 octobre à Paris. Un grand absent, parce que évidemment le favori est sur la liste, je vous rassure, mais le grand absent pour la première fois depuis 2006, c'est Lionel Messi. Est-ce que ça vous semble logique ?
Sportivement, oui, c'est évidemment. Sportivement, c'est logique, puisqu'il avait piscine, il avait déménagement.
C'était une espèce d'année de transition, mise entre parenthèses.
On ne va pas se mentir ici, on sait tout ce qui s'est passé. Ça a été une saison mauvaise pour Lionel Messi, la première depuis quasiment le début de sa carrière. Il y a des raisons à cela, un changement d'environnement. Il arrive aussi dans un club où ce n'est pas simple, le Paris Saint-Germain, on le sait très bien ici. Plus qu'une surprise, moi, je qualifierais ça d'événement. Voilà.
Ouais, non, c'est il y a toutes les conditions. Il n'y avait pas de préparation, il a fait une saison sans, c'est tout. C'est pas surprenant. C'est surprenant parce que c'est Messi et qu'on se dit, mais si on prend l'aspect sportif, c'est complètement logique qu'il ne soit pas dans la liste.
Vous avez donné les critères, les nouveaux critères évoqués. Mais là, pour le coup, ce n'est pas le prestige du nom, quoi que ce soit. Donc
ça ne suffit pas. Quoi.
Et Cristiano est dedans alors qu'il est à Manchester.
Il a marqué 18 buts.
Il était très bon.
Pour le coup. Donc lui, ce n'est pas une surprise. En revanche, Messi, heureusement qu'il n'est pas.
Oui, c'est ça, parce que là, franchement, s'il est dans la liste avec sa saison, c'est pas possible.
Total du trophée, ce qui n'est pas le cas.
Non, mais ce qui n'est pas le cas, heureusement. C'est des gens sérieux, quand même.
Les deux nations les plus représentées, c'est la France et le Portugal. Ouais. Et notamment les Français. Bon, alors, Karim Benzema est bien là. Il y a aussi Antoine Griezmann, Mike Maignan.
Non, Griezmann n'est pas là.
Ah, pardon.
C'est Nkunku.
Nkunku. Il y a Mike Maignan aussi.
Tout à fait, le gardien numéro AC.
Et le quatrième français.
Kylian Mbappé, un petit joueur évidemment. Comme ça, qui joue au Paris Saint-Germain.
Kylian Mbappé.
Qui ne tire pas les pénaltys tout le temps.
Qui s'est auto-désigné sur le podium. Parce que quand on lui a demandé c'est quoi votre trio, il a mis devant Karim Benzema. Et puis il s'est mis lui sur le podium avec Sadio Mané.
Ouais. Voilà. Bah écoutez, au moins il ne se cache pas. Hein. Moi, c'est vrai que ça peut paraître un peu présomptueux de sa part, mais au moins.
Il a dit, je dirais Benzema, moi et Mané.
Ouais, après, je ne suis pas sûr que le jury suive forcément ce qu'il a dit. En tout cas, moi, je le vois dans le top 5. Pour moi, le podium. Enfin, après, c'est mon opinion. Hein, je ne suis pas dans le secret des votes, mais Bon, je vois pas comment ça peut échapper à Karim Benzema.
Ouais, d'accord.
Sadio Mané mérite complètement d'y être. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations et c'est un joueur majeur du football
mais
international.
Il perd la finale contre Karim.
Il perd la finale contre Karim, mais la CAN. Que Messi gagne la Copa América, ça
compte.
Bien sûr.
Mané gagne la CAN, ça doit compter pour moi. C'est comme ça que je le lis. Et puis peut-être Courtois ou De Bruyne, voire Mbappé.
Courtois.
Il y a quatre représentants du continent africain, ouais. Nabil, et c'est sur eux que je voulais m'arrêter pour terminer l'émission.
Merci.
On a un Ivoirien, Sébastien Haller. On a évidemment Sadio Mané du Sénégal. On a Riyad Mahrez, l'Algérien, et Mohamed Salah, l'Égyptien.
Oui. Bah, c'est très bien.
Tout ça, c'est normal.
Et c'est logique et c'est absolument justifié. Haller a été fantastique.
Allez, elle a fait une saison
incroyable en Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam. D'ailleurs, on pense à lui puisqu'on sait qu'il traverse un moment difficile. On espère très vite le revoir sur un terrain, l'international ivoirien. Et ensuite, vous avez trois stars du football africain qui dominent le football africain. On avait peur
qui
un moment.
Ils sont tous les trois en Angleterre.
On avait peur un moment qu'il n'y ait pas une relève suffisante après Drogba, Eto'o, Yaya Touré. Mais finalement, on a été gâtés avec Mané, Salah et Mahrez. Mané, Salah et Mahrez. C'est presque mieux que Drogba et Eto'o parce que
Mané notamment, Edouard Mendy et...
Mané notamment et Salah ont été presque candidats au sacre final ces dernières saisons, avec, notamment grâce aux résultats de Liverpool. Et je voudrais rajouter un dernier truc, c'est qu'il y a aussi le trophée du meilleur gardien, le trophée Yashin. Avec Lev Yashin, l'araignée noire, donc
ça.
L'ancien gardien de l'URSS qui porte le nom de ce trophée, avec deux gardiens africains, qu'on connaît, c'est Edouard Mendy. Un autre qu'on connaît
celui
également, mais qui est nommé pour la première fois, c'est l'international marocain du FC Séville, Yacine Bounou.
Ah oui, qui a été encore une fois auteur d'une très bonne saison. Pardon, mais sur les quatre Africains que vous évoquez, moi, c'est le cas Riyad Mahrez. Alors, pardon, mais je ne parle pas du génie, il n'y a pas de problème là-dessus.
Nabil,
mais
si, on a fermé son micro.
Mais si on est, puisqu'on juge, on est d'accord, de la mi-décembre jusqu'à mi-août, enfin début août, quoi, jusqu'à l'annonce de la liste. Riyad Mahrez, c'est 7 buts marqués. C'est une importance moindre dans Manchester City cette saison.
Mais c'est pas de mi-décembre à mi-août, c'est sur la saison
c'est
complète.
C'est du Ballon d'Or, enfin le Ballon d'Or, le dernier Ballon d'Or, c'est.
Ouais, mais
ça
ils
a été
prennent
donné.
En compte la saison, mais bon, vas-y, c'est pas grave.
Bah, pardon.
Ils prennent en compte toute la saison.
Non, mais c'est-à-dire que Mahrez, en gros, pour faire simple, ses stats, c'est pas 7 buts. Ce qui est pris en compte, c'est 24 buts sur toute la saison, toute compétition confondue, ce qui fait de lui quasiment le meilleur buteur de Manchester City. Et surtout. Surtout, alors le bémol c'est avec l'Algérie, il n'y a pas de souci avec la CAN, l'élimination à la Coupe du Monde. Surtout, il a été impactant sur la compétition finalement la plus importante et la plus
Ligue
prestigieuse, la Ligue des Champions, où il est le meilleur buteur de son équipe pour un milieu excentré avec 7 buts. Et là, il bat le record aussi d'Aguero au niveau de Manchester City sur une campagne de Ligue des Champions. Donc je pense que sa place est tout sauf usurpée, mon cher.
Et ben vous savez quoi, je retire mon propos. Nabil Djellit m'a convaincu.
Ah, il vous a convaincu.
Non, mais c'est, en fait,
il est fort.
Mahrez,
hein.
Il est là surtout grâce à la Ligue des Champions.
Une petite appréciation, Eric Rabessandratana.
Non, bah après, là, moi,
sur cette liste, je sais pas. Sur,
non, non,
sur les
bah,
Africains.
Je suis pas sûr que. Je suis
pas
sûr. Même si. Non. Non, ça se saurait, mais non. Non, mais il y a. Mbappé, oui, mais t'es sorti en. Il a fait une saison extraordinaire, c'est pas le souci. Mais est-ce qu'il mérite vraiment d'être dans les trois? Je suis pas sûr. Je suis quand même pas sûr parce
mais
que
avec
moi,
les
je l'aime
critères,
beaucoup.
En fait, c'est l'avantage.
Ben,
mais...
C'est ça.
Et c'est pour ça qu'il faut qu'il tire les pénaltys.
Non, mais voilà, je veux dire. c'est parce que là, un Thibaut Courtois dans les trois, ça me surprend.
Ah, ça
me dérange pas, mais il faut un Mané quand même.
Après,
moi,
vous avez De Bruyne. Non, mais
plus Courtois, il a gagné.
Moi, je mettrais plus Courtois.
De Bruyne est champion d'Angleterre aussi, qui est quand même la ligue pour moi la plus difficile, quoi.
Mais c'est vrai, Courtois, il a été pour le coup essentiel comme Cabenueve. Hein,
oui, ça, carrément. On les a vus à l'œuvre jusqu'en finale et jusqu'à l'obtention du trophée. Eh bien, c'est sur ces quelques paroles et sur la petite provocation de Nabil Djellit que terminer.
Cette
émission aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous demain en fin d'après-midi pour parler encore de football, même heure, même fréquence.
En hommage à nos reporters.